VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Au moins 3 membres des forces de la sécurité somalienne ont été tués aujourd'hui à Mogadiscio en tentant de désamorcer une bombe placée dans un véhicule. Le véhicule a été saisi et les forces de sécurité essayaient de désamorcer la bombe à l'intérieur quand elle a explosé, a indiqué un responsable de la police. L'Université d'État du Michigan au secours du patrimoine culturel malien, grâce au projet Matrix, 100 000 images rares des archives originales de 5 photographes professionnels ont pu être numérisées dans le but de les rendre accessibles à un plus large public. Ce projet vise à répondre aux besoins de la recherche et de l'enseignement, mais aussi aux besoins de préservation du patrimoine culturel au Mali. Kassim Traoré nous en dit plus.
L'ambassadeur des États-Unis au Mali et le ministre de la Culture ont procédé au Musée national de Bamako au lancement d'un site internet et le vernissage de l'exposition ici des archives de 5 photographes professionnels maliens, à savoir Malik Sidibé, Adama Kouyaté, Tidjane Situ, Abdramane Sakali et Mamadou Sissi.
Candace Keller, je suis une professeure aux États-Unis. Nous avons travaillé ensemble pour choisir les photos. Nous avons nettoyé, catalogué, numérisé et sauvegardé 25 000 négatifs originaux de chaque photographe. Nous avons travaillé avec 5 photographes ensemble. C'est la famille même qui a choisi l'image que nous avons travaillé dans ce projet.
Ce projet d'archives de la photographie malienne est financé par un fonds provenant du National Endowment for Humanity du gouvernement américain. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Ce projet vise aussi à rendre accessible à l'échelle mondiale les archives des photographes les plus importants du Mali. Ces images seront désormais accessibles aux quatre coins du monde, deviendront pérennes et il suffira d'un seul clic pour découvrir tout un pan de la culture malienne. Le gouvernement des États-Unis se réjouit d'avoir soutenu ce projet qui permettra au monde entier de découvrir la riche culture du Mali.
Si le problème de la préservation et de la conservation est un acquis, il y a la protection des familles des photographes qui n'a pas été discutée. Youssouf Sakali, porte-parole des familles des 5 photographes.
En effet, il s'agit de la protection des familles détentrices d'archives, car combien de ces familles sont déjà déchirées aujourd'hui ou sont sous le point de l'être, fait qu'ils ne maîtrisent pas l'exploitation de leurs fonds? Combien de familles sont à la merci d'exploitants commerciaux? Je parle des agences de photographie, certaines, bien sûr, pas tous, qui sont vraiment sans scrupules. Combien d'expositions aujourd'hui avec les archives de Malik Adama Kouyaté ou de mon père qui sont organisées dans le monde sans que la famille ne soit informée, sans qu'aucun compte rendu, même a posteriori, ne soit effectué? Combien de familles ont vu leur archive physique partir à l'étranger et ne jamais revenir?
Le ministre de la Culture du Mali a salué la vitalité des relations entre le Mali et les États-Unis, mais singulièrement dans le domaine de la culture. Ndiaye Ramatoulaye Diallo.
Je voudrais avant tout saluer cette belle initiative qui a permis d'assurer le traitement, la conservation et la préservation de documents photographiques anciens réalisés par les photographes maliens et les rendre plus accessibles aux artistes, chercheurs et universitaires à travers le monde. Je reste convaincue que les archives des photographes cités seront mieux conservées, que les droits des détenteurs de ces fonds ou leurs ayants droit seront entièrement respectés.
À travers le vernissage de l'expo, les visiteurs ont vu les images qui documentent les pratiques traditionnelles, culturelles et religieuses, les festivals ruraux, les impacts coloniaux et les processus de modernisation des villes comme Bamako, Mopti et Ségou. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président soudanais Omar al-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour génocide, a été invité au sommet prévu dimanche à Riyad entre le président américain Donald Trump et des dirigeants arabes et musulmans, a indiqué aujourd'hui un responsable saoudien. Le responsable qui a requis l'anonymat n'a pas été en mesure de dire si M. Béchir sera effectivement présent au sommet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Direction la RDC, la prison centrale de Makala, Kinshasa, a été attaquée tôt ce matin par des miliciens d'un groupe sécessionniste politico-religieux. Ces miliciens sont parvenus à faire évader leur chef, Nemuanda Nsemi, et une cinquantaine de personnes selon le gouvernement congolais. Député Nemuanda Nsemi est le chef du mouvement prônant une sécession du Congo central, une province dans l'ouest de la RDC, et est accusé d'avoir mené une série d'attaques meurtrières contre des symboles de l'État depuis la fin de l'année 2016. Il a été arrêté début mars après 2 semaines de siège de sa résidence à Kinshasa. La police poursuivait les assaillants, selon le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Toujours en RDC, le gouvernement de transition a été investi mardi à Kinshasa par les députés nationaux au terme d'une plénière qui a duré 9 heures de temps et qui a été marquée par la sortie de la salle d'une centaine de députés de l'opposition. Bruno Tshibala a reçu le feu vert des élus pour conduire le pays vers des élections durant cette période de transition. Les détails avec Thierry Kaboudi de Top Congo FM, nos stations partenaires. À Kinshasa.
336 voix pour, une seule abstention, 0 voix contre, c'est le résultat du vote qui a sanctionné l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai 2017. En dépit de la controverse suscitée par le rejet de la motion incidentielle du député de l'opposition Koko Moulongo, ce qui a poussé les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle à coups de sifflets et de vuvuzela, le gouvernement d'Union nationale chargé de conduire la RDC vers les élections fin 2017, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, a bien reçu le feu vert des députés après la présentation par le Premier ministre de son programme. Concernant les élections, Bruno Tshibala a affirmé que son gouvernement a pour ambition d'offrir à la RDC les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu. Le social, il en a également été question lors de cette cérémonie d'investiture. Alors que la crise a atteint des proportions inquiétantes avec la dépréciation quotidienne du franc congolais, Bruno Tshibala a annoncé une batterie de mesures urgentes pour arrêter l'hémorragie. Le gouvernement de transition entre donc en fonction dans un contexte particulier. Le rassemblement que dirige Félix Tshisekedi a qualifié sa nomination de violation manifeste de l'accord du 31 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lors de son premier déplacement à l'étranger, le président des États-Unis, Donald Trump, va prononcer dimanche prochain à Riyad un discours sur une vision pacifique de l'islam. Claire Morin-Gibou.
Ce discours sera prononcé devant les dirigeants de plus de 50 pays musulmans. Une véritable tribune pour le président américain qui devrait insister sur l'engagement des États-Unis envers ses partenaires musulmans. Le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a donné quelques détails supplémentaires. Donald Trump s'exprimera également sur la nécessité d'affronter les idéologies radicales et sur ses espoirs pour une vision pacifique de l'islam. Le discours du président américain est particulièrement attendu, les détracteurs de Donald Trump lui reprochant son décret anti-immigration qui, selon eux, attise l'islamophobie. Le président américain entame samedi à Riyad son premier déplacement hors des États-Unis, qui le mènera aussi en Israël et au Vatican. Autre étape obligée pour le président américain, le sommet de l'OTAN à Bruxelles et le sommet du G7 à Catane en Sicile.
Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont entretenus mardi par téléphone quelques jours avant la visite en Israël du président américain, a indiqué aujourd'hui un porte-parole du premier ministre israélien. Cette visite a pris une tournure de plus en plus délicate avec une controverse sur le statut diplomatique de Jérusalem et depuis mardi, des informations selon lesquelles M. Trump aurait communiqué à des responsables russes des informations hautement classifiées fournies aux États-Unis par Israël. Messieurs Trump et Netanyahou se sont parlé pendant 20 minutes et le seul sujet de discussion a consisté dans la visite à venir, a dit le porte-parole. Le président américain est attendu lundi à Jérusalem et doit se rendre ensuite le lendemain en Cisjordanie, territoire palestinien occupé. Et puis le médiateur de l'ONU a soumis aux représentants du gouvernement syrien et de l'opposition une proposition destinée à préparer une nouvelle constitution, l'un des sujets majeurs à l'ordre du jour des pourparlers de paix qui ont repris mardi à Genève. La délégation du régime conduite par l'ambassadeur syrien aux Nations Unies, Bachar al-Jafari, et la délégation du Haut Comité des négociations, le HCN, qui rassemble les principaux groupes d'opposition, doivent donner leurs commentaires mercredi après-midi à l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura. La veille, le médiateur a rencontré à deux reprises les deux délégations rivales et les discussions ont duré jusque tard dans la soirée. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi à tous sur le continent. Au revoir et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.